Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, au fil des pages, je vous propose de vous pencher sur le dictionnaire de médecine réalisé par l'Académie de médecine et édité par le Conseil international de la langue française. Il s'agit d'un ouvrage numérique consultable sur le site de l'Académie nationale de médecine et également disponible en CD-ROM. Pour parler avec nous des 5 ans de travail qu'ont nécessité la mise sur pied de cet ouvrage avec pas moins de 50 000 entrées, Pierre Delaveau est avec nous. Monsieur, bonjour.
Bonjour, mademoiselle. Merci de m'accueillir.
Merci d'être avec nous.
Je vais me permettre une petite correction. C'est que ce dictionnaire vous a coûté effectivement 5 ans de travail, mais dans un retravail, une édition nouvelle, car le projet initial avait été lancé par le professeur Jean-Charles Sournia et par le directeur du SILF, M. Joly, Hubert Joly, et il y a maintenant 10 ans. Et il faut énormément de travaux pour aboutir à un résultat dont on n'est pas toujours très fier, mais qui est en cours d'amélioration de façon tout à fait régulière et évolutive. Je crois qu'on peut dire que c'est un dictionnaire évolutif, parce que nous entendons lui donner vie et entretenir ses progrès.
Alors, on l'entend à travers vos propos, un travail de longue haleine. Je précise tout de suite pour nos auditeurs qui viennent d'entendre votre voix que vous êtes membre de l'Académie nationale de médecine, président de la commission du langage médical, professeur à l'Université René Descartes Paris 5, et également, je crois, membre de l'Académie nationale de pharmacie.
Parfaitement.
Vous avez dirigé cet ouvrage avec beaucoup de dynamisme, nous disent les personnes qui travaillent avec vous. Il existe beaucoup de dictionnaires médicaux, Pierre Delaveau. Alors, en quoi celui-ci est-il différent des autres ?
Je crois que c'est la question fondamentale. Il y avait un dictionnaire célèbre au XIXe siècle qui s'appelait celui de Dechambre. Il est complètement caduque maintenant. Il existe dans des bibliothèques respectueuses du passé, mais on ne le consulte plus, ce dictionnaire, en de très nombreux tomes, parce que tout est naturellement vieillot. Ensuite, il y a eu un dictionnaire important qui a été lancé chez les éditions Masson par M. Manuela, qui était un très savant médecin d'origine roumaine, je crois, et qui avait, avec une équipe de confrères de haute qualité, répondu à une demande qui était presque un pari. Et il avait réussi à faire un dictionnaire de médecine en nombreux tomes, tout à fait remarquables, dans lequel on trouvait beaucoup, beaucoup de termes qui étaient impossibles à découvrir ailleurs. Donc ce dictionnaire est précieux comme document de richesse. D'intérêt pratique immédiat, moindre, et il existe pour cela alors des manuels, des usuels, mais il y a des dictionnaires tout à fait remarquables qui conviennent parfaitement d'une part aux étudiants, d'autre part aux enseignants et surtout aux médecins praticiens qui peuvent avoir, au détour d'une ordonnance à rédiger, besoin de vérifier certains thèmes, donc qui trouvent facilement dans un manuel du type du Larousse ou du Robert, si vous voulez, des définitions essentielles. Mais nous avons des prétentions beaucoup plus importantes, puisque ce dictionnaire tel qu'il est actuellement représente une nouvelle édition de l'effort qui avait donc été lancé dès les années 90 et que nous avons beaucoup amélioré. Nous avons, pour cela, travaillé de la façon suivante. Au départ, le directeur général, qui était le professeur Sournia, avait demandé à des amis et à des confrères compétents de bien vouloir prendre la charge de département, de secteur. Par exemple, la gynécologie obstétrique, l'ophtalmologie, la neurologie, les maladies respiratoires, etc. Et chacun avait constitué une équipe avec des collaborateurs qui a réalisé des définitions pour ces dictionnaires. Et il en est survenu, malheureusement, une certaine hétérogénéité. Alors, quand il a fallu envisager une nouvelle édition, et il fallait donc envisager ne faire qu'un seul ouvrage qui était présent sous forme d'un CD-ROM ou d'un dispositif consultable en ligne. Et donc, la question, c'était de faire un seul ensemble à partir de 15 sous-ensembles un peu hétérogènes. C'est ce que nous avons plaisamment appelé la chasse aux doublons. Ce n'est pas les mouflons, mais les doublons. Et notre chasse a été extrêmement difficile à faire, parce que d'abord, il a fallu repérer l'existence de ces doublons qui correspondaient à environ 30 à 40% de l'ensemble des dictionnaires. Donc notre terrain de chasse particulier, si je puis dire, pour reprendre cela, ça a été de déceler les doublons. Alors vous aviez par exemple une définition de nophtalmologie qui était extrêmement précise, avec des détails très pointus, très très bien faits, parce que l'auteur qui avait fait ça avait pensé que c'était bon d'aller dans les détails, tandis que le même mot était défini autrement par le neurologue, autrement par le, disons, la médecine générale. Et quand nous sommes trouvés en face de ces trois définitions, nous devions faire la synthèse pour ne rien évacuer d'important, et pour présenter les choses d'une manière cohérente et homogène. Et ça nous a occupé beaucoup. Et si je disais que nous avons une équipe d'environ 8 personnes permanentes, nous avons pu réaliser ces travaux de synthèse dans notre privé, ensuite présenter en équipe, dans la commission dictionnaire, nos projets, et nous faire critiquer vertement, parfois, par les confrères qui sont devenus des amis. Et c'est par cette critique réciproque que nous avons tendu vers un mieux. Et nous pensons que précisément le caractère évolutif du dictionnaire permettra, par exemple, une réédition tous les 2 ans ou 3 ans. Vous voyez là, schéma général. Alors, si vous voulez des détails plus précis, je dirais que chacun, dans son privé, recevait les feuilles, avec, mettons, une cinquantaine de feuilles qui étaient déjà tapées, qui étaient bien présentables. Il faisait ses critiques et il les communiquait dans l'équipe réunie.
Alors voilà, là, c'est pour parler des coulisses de la mise sur pied de ce dictionnaire. Entrons, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet. Parcourons les pages de ce dictionnaire. On y trouve à la fois des notions de physique et d'électronique qui sont utilisées dans la médecine actuelle, ainsi que les maladies rares du monde entier, des maladies connues comme l'encéphalite, l'impétigo ou encore le virus Ebola, on l'a vu en préparant cette émission. On y trouve aussi des termes qui, a priori, n'ont pas de lien direct avec la médecine, comme par exemple absentéisme scolaire, ou encore pension militaire d'invalidité psychiatrique, et encore tatouage. Comment avez-vous décidé de l'entrée de ces mots qui ne semblent pas avoir de lien direct avec la médecine ?
Votre question est tout à fait pertinente, et elle rejoint des critiques qui ont été formulées par certains de nos collègues dans notre équipe. On m'avait reproché de m'étendre un peu trop, loin du noyau central. Le noyau central, c'était effectivement la médecine et la chirurgie. Par exemple, le mot « abcès » qui se décline avec toutes sortes de qualificatifs. Abcès en bouton de chemise, abcès du sein, abcès de la vessie, etc. Enfin, il doit y avoir une quarantaine de monographies, définitions différentes, d'entrées, pour prendre le terme lexicographique, une quarantaine d'entrées. À côté de ce noyau-là, il m'a semblé que beaucoup de termes n'étaient définis nulle part, dans aucun ouvrage accessible au grand public, et ça serait intéressant de pouvoir y trouver une définition simple, mais précise et actualisée. Vous n'êtes pas sans savoir que, par le journal officiel, par exemple, et par un périodique que l'on consulte en informatique qui s'appelle Légifrance, vous avez beaucoup d'informations qui vous donnent la création d'un nouvel observatoire, une nouvelle agence, un nouveau système de réglementation, et qui permet au ministère de la Santé de régir tout ce territoire de la santé. Et nous avons pensé que finalement, il était bon d'employer tatouage. Eh bien, vous savez que le tatouage est un phénomène très intéressant d'un point de vue psychologique, d'un point de vue anthropologique, etc. Mais ce qui est important, c'est de voir que le tatouage utilise des procédés mécaniques et l'emploi de produits chimiques. Et on se pose la question, est-ce que c'est anodin ou y a-t-il des risques d'effets toxiques des produits chimiques ? Et précisément, un groupe de travail avec M. Sivat, qui est notre spécialiste de dermatologie, a examiné à l'Académie de médecine l'incidence possible sur la santé du tatouage et des produits de tatouage. Vous preniez un autre exemple qui était les invalidités permanentes et les droits. Je pense que même si on ne parle de ces thèmes-là que de façon très succincte, ça n'est pas mauvais de signaler que ça existe. Vous avez toute une série de termes de droits qui touchent la médecine. Je pense que il est bon que quelque part on puisse y trouver. Alors, dans nos projets, nous allons davantage développer cela. Pour le moment, c'est en cours de rédaction.
Le vocabulaire médical évolue rapidement en fonction des progrès et des découvertes médicales. La mise à jour de votre dictionnaire doit être régulière, j'imagine. D'ailleurs, oui. Vous parlez d'une prochaine édition.
2 à 3 ans de période.
Le dernier terme qui pourrait être prochainement mis dans votre dictionnaire, on en parle en ce moment, c'est « bébé médicament » ou
oui,
« enfant espoir ».
Bon, alors, vous me faites passer, si vous permettez, d'un domaine à un autre. C'est-à-dire qu'il existe une commission de terminologie et de néologie qui est nationale, qui est générale, et qui couvre des sous-commissions sous la responsabilité de nombreux ministères.
Puisque là, il s'agit d'un néologisme.
Il s'agit d'un néologisme, parfaitement. Donc, nous avons une représentation de 6 membres de l'Académie de médecine dans cette commission de terminologie et néologie. Le président qui dirige cette commission, placée sous l'autorité de l'Académie française, M. Marc Fumaroli, qui décide en commission les mots à traiter, et qui répartit dans les différentes commissions. Alors, nous travaillons pour essayer d'accepter ou de refuser ou d'adapter des mots qui, pour la plupart, sont d'origine anglo-saxonne et qui méritent considération. Alors, cette notion que vous venez de développer est importante et qui consiste à dire que si on peut disposer soit des annexes correspondant aux nouveau-nés, soit de tissus venant des nouveau-nés, on pourrait avoir des pièces détachées en quelque sorte, à communiquer à d'autres enfants de la même fratrie et qui en sont démunis par suite de troubles divers. Donc, c'est une question importante. Eh bien, je crois que ces expressions à choisir sont en cours de discussion et je ne vais pas m'avancer davantage, mais c'est un exemple très bien choisi de thème de travail parce que c'est riche d'expressions, riche d'idées.
Alors, restons peut-être dans les néologismes. Je crois qu'ils sont nombreux dans le milieu médical. Quels sont les néologismes que vous acceptez volontiers et les autres qui peuvent prêter parfois à contresens? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner?
Je dois dire qu'il fut un temps où je fréquentais un petit peu de façon très indirecte, disons, les alentours de la commission du dictionnaire de l'Académie française pour savoir la politique, les idées. Et M. Druon était peu enclin au néologisme et tâchait d'éviter l'irruption de mots non indispensables et qui surchargeaient. C'était une politique raisonnable parce qu'actuellement, on voit fleurir toutes sortes de néologismes souvent critiquables. Nous travaillons avec une prudente réserve et nous sommes guidés par nos confrères canadiens. Les Québécois sont extrêmement actifs et ils ont un système de dictionnaires et de sous-commissions qui préside à des créations de termes qui, très souvent, nous paraissent convenables. L'expression de courriel vient du Canada et nous l'apprécions beaucoup. C'est mieux que le email, qui est une américanisation. On ne sait pas trop pourquoi le i, comme ça, pour la plupart des gens. Alors, je crois qu'il faut être ouvert. Il ne faut pas du tout avoir un esprit chafouin et crier « Oh là là, c'est une invasion !» Mais il faut être prudent et ne pas sauter sur tout terme.
Auriez-vous un exemple de néologisme à donner à nos auditeurs dans le milieu médical?
Nous en avons un qui était à caractère un peu argotique. Parce que très souvent, on voit apparaître dans des journaux américains des termes que un journaliste en mal de fantaisie ou je ne sais quoi, ou aussi un manque de culture, lance, qui fait florès ce mot, et puis ça passe d'un état à l'autre et ça nous vient. Eh bien, prenons l'expression de « binge drinking ». Binge drinking, ça veut dire qu'on boit de l'alcool d'une façon rapide pour obtenir un état d'ivresse. Quand on est en face d'une expression, il y a 2 panneaux, si vous voulez. Le panneau, c'est de comprendre ce que l'expression veut dire. Alors, ça peut être une périphrase un peu longue. Et le deuxième cas, c'est de dire il faut un terme court qui soit adapté. Voyez-vous, une expression que l'on voit en ce moment, gold standard. Tout le monde parle de gold standard. Alors gold, ce qui est le meilleur, l'or, pensez donc. Et standard qui donne l'idée des talons, de référence. Alors on vous dira, c'est un gold standard de. Bon, bah pourquoi employer cette expression? Il y a peut-être des expressions françaises que l'on peut proposer, qui seraient par exemple le nec plus ultra, l'élément de référence. J'en avais noté un autre qui peut être la crème, on dit quelquefois la crème de la crème. Alors, il est évident que dans le langage général et dans le langage médical, il y a cette tendance à créer des mots, et il faut le faire avec prudence. Mais nous arrivons souvent trop tard, nous, dans nos commissions, par rapport à l'usage. Prenons un exemple que l'on entend dans les services de médecine, pour un malade dont on présente l'ensemble des caractères physico-chimiques, un plus jeune dira à son patron, et encore, un jeune patron ne frémira pas, on va bilanter le malade. Bilanter. Mais non. Alors, c'est intéressant de savoir, le bilan qui vient de l'anx, c'est le plateau de la balance, donc c'est la balance romaine avec un seul plateau, bi, l'anx, ben, y en a deux, et puis on équilibre, et on va donner donc, à partir de cela, la notion de bilan, qui est une, on connaît le bilan financier par exemple, qui est, ou une balance, c'est la même chose, il y a deux forces qui s'équilibrent. Alors pourquoi bilanter ? Alors vous me direz, ben, qu'est-ce qu'on va présenter ? Ah, ben voilà, quelle est l'expression ? Parce qu'on est paresseux de dire cela. Et ben, on va dire établir un bilan, hein. Ben alors c'est un peu plus long. On va fixer le bilan, on va faire l'économie, on va... Enfin, chacun peut trouver une expression meilleure.
Au sein de la commission de terminologie, vous êtes amené à créer de nouveaux mots ?
Oui, alors ça, c'est une autre...
Même si maintenant, on se décale un petit peu du dictionnaire de médecine, mais
c'est très intéressant.
Vous en êtes le reflet.
Alors, si vous me lancez là-dedans, je serais terriblement bavard, parce que j'ai eu l'occasion de me pencher dans des livres sur la genèse des mots, ce goût-là. Vous avez tout un fond qui est grec, avec les mots qui existaient dans le vocabulaire d'Hippocrate, par exemple. Disons arthrite, arthrith, qui dérive de la racine ar, qui donne les articulations, articulation, arme, enfin, il y a beaucoup de mots qui en dérivent. Donc, vous avez l'arthrite, qui est une affection aiguë, l'arthrite, et puis on a trouvé arthrose aussi, qui va donner l'idée d'une affection dégénérescente, et puis vous avez toute une série de mots qui sont passés dans nos vocabulaires. On parle de gastrite, on parle d'arthrite, on peut de maladie cardiaque, cardiaque qui vient du cardia grec, etc., qui est le cœur. Le cœur encore avec précaution, parce que la notion anatomique était un peu floue chez M. Hippocrate. Mais ensuite, vous avez une autre manière de voir. Alors, vous avez le latin qui souvent a dérivé du grec et puis qui a provoqué la création de beaucoup de mots. Et au Moyen-Âge, on a eu une énorme production de mots latins. Et actuellement, on a l'air d'oublier complètement l'origine latine de beaucoup de mots, si bien que l'étymologie latine passe inaperçue. Et vous avez eu une série de mots intéressants qui déjà existaient chez les Grecs et qui s'est reproduit et qu'on retrouve actuellement dans l'anglo-saxon moderne. C'est le système des métaphores, c'est-à-dire qu'on prend un terme qui a des sens précis et que l'on transpose avec une certaine idée de ce sens, mais pas complètement. Prenons l'exemple de cotylet. Cotylet, c'est une marmite, c'est une casserole, si vous voulez, en forme de creux, dans laquelle on peut mettre un liquide. Et cotylet, ça va devenir, dans l'os, la partie creuse dans laquelle va s'engager la tête du fémur, de l'humérus. Vous voyez ? Alors, c'est un transfert. Vous avez la cuirasse, et qui est le thorax en grec, et qui va nous donner l'équivalent d'une cuirasse osseuse. Et vous allez retrouver toute une série de termes, que je ne peux pas développer davantage, qui indiquent cela. Tyros, tyréos, le plastron qui sert de protection, qui est donc une sorte d'écusson, qui va devenir la thyroïde, etc. Alors, c'est une source importante. Et puis, vous avez eu les apports de différentes langues, donc un peu d'allemand, de l'italien. Prenons l'exemple de cette expression que l'on a utilisée pour l'influenza, influenza del freddo. Ça voulait dire l'influence du froid. Et l'influenza est restée pour cette maladie qu'on appelle vulgairement la grippe, qui n'en est pas une, si vous voulez. Et on peut avoir également en espagnol amarillo, qui donnera la couleur jaune et qui va faire le virus amarille pour le virus de la fièvre jaune. C'est la couleur jaune qui domine. Alors, les couleurs, là encore, c'est une merveilleuse source d'amusement, parce que vous avez, j'avais repéré quelque chose comme 130 mots de médecine qui dérivent de couleurs. Tout le monde connaît la rougeole, la rubéole, avec l'idée de rouge. Vous avez des pigments que l'on utilise, l'éosine. Les granulocytes qui fixent l'éosine, ce sont les éosinophiles. Éosiné, c'est l'aurore, la couleur de l'or, qui est un terme poétique d'ailleurs. Alors vous retrouvez de la même manière. Et quand vous avez le mélanome, ça donne l'idée de noir. Mélasse, le noir. Donc c'est une tumeur extrêmement grave de la peau, qui est mortelle, et donc est présente dans beaucoup de termes, etc. Alors leucos, qui veut dire à la fois blanc et incolore, et qu'on a dans les leucocytes et dans le choré, etc. Enfin, c'est très fructueux, il doit y avoir une trentaine de mots en dérivé. Donc vous voyez, il y a dans la création de mots, des racines avec parfois des petits tours facétieux. On retrouve le même mécanisme à partir des langues vivantes actuelles. Et chaque fois que la création est intelligente, pourquoi pas l'accepter ? Ce qui est dommage, c'est que quand le terme est grossier ou impropre. Voilà, donc il faut cet esprit critique qu'on essaie d'avoir.
Donc on a bien senti votre passion aussi avec les autres personnes qui vous entourent, cette passion de définir les mots, de retrouver leur étymologie. On en vient à la fin de l'émission, il va falloir terminer malheureusement, même si c'est toujours un plaisir de vous entendre, Pierre Delaveau. Il y a une nouvelle édition qui devrait paraître a priori en 2012 et qui, comme vous l'avez dit,
c'est notre carotte devant l'oseille. Il n'y a pas beaucoup de bâtons, mais il y a beaucoup de carottes pour avancer. Et nous sommes enthousiastes d'avoir, malgré notre âge, je le répète, parce que nous ne sommes pas des jeunets, nous pensons que c'est une œuvre bonne et que c'est une œuvre qui sera très utile à la francophonie. Car il y a actuellement de gros, gros efforts à réaliser dans le titre de la francophonie. Nous pensons particulièrement aux pays africains et asiatiques, mais surtout africains actuellement, qui manquent de cadres, qui manquent d'encouragement. Il y avait, de la part de la France, beaucoup de coopérants qui contribuaient à aider les jeunes à acquérir. Et maintenant, on a cessé, c'est grand dommage, et nous espérons que cette modeste œuvre du dictionnaire sera utile. Et nous entendons ce matin une référence à un ambassadeur d'un grand pays africain, M. Kolibala, qui disait « Le français, langue de la liberté ». Eh bien, que le français reste. Et alors, je crois qu'on peut remercier beaucoup Canal Académie de contribuer très largement à la diffusion de la culture française et de nous permettre de parler de la culture médicale française.
Eh bien, merci Pierre Delaveau. Je redonne le titre du CD-ROM Dictionnaire de médecine, hein, tout simplement, qui en 2012 sera certainement plus élargi pour répondre à une demande et un public plus large, donc qui ne sera plus forcément destiné aux praticiens et aux étudiants en médecine. Donc un public plus large. Le dictionnaire de médecine se trouve donc sur le site internet de l'Académie nationale de médecine, une consultation gratuite sur le site de l'Académie de médecine, et puis également le CD-ROM qui est édité par les éditions SILF, Conseil international de la langue française.
11 rue de Navarin, Paris 9e.
Voilà, les informations sont données. Merci à vous Pierre Delaveau d'être venu nous raconter toute cette belle histoire que l'on souhaite longue pour le dictionnaire de médecine. Merci.